Aujourd'hui, Mariana Delgadillo, non, très, très compliqué, Espinosa, certes, mais Mariana Delgadillo, voilà, j'ai réussi, Mariana Delgadillo Espinosa, pour l'ensemble Alchimia, un ensemble dont je souhaitais faire une présentation en lisant ce qui est écrit sur le site. Enfin, moi, j'avais préparé plein de choses, mais vous voyez comme je bredouille à 14h07, auditeur, ce n'est pas possible de commencer aussi tard. Alors, bref, nous allons commencer à écouter. Quel est cet ensemble Alchimia? De quoi s'agit-il? Vous allez entendre, c'est très beau. C'est un ensemble vocal. Ils vont interpréter, on va laisser un premier titre. D'ailleurs, il est très poétique. Neige sur les orangers. Vous allez voir, c'est une sorte, je crois que c'est medley, le terme que l'on emploie. Ça présente un peu ce que cet ensemble peut faire. Leur actualité, ce sera un concert le samedi 25 novembre dans le cadre de la fin de semaine, le festival Rendez-vous de la musique ancienne. 24, 25, 26 novembre, c'est à venir, hein, d'ici un mois, mais, il faut en parler un peu en avant. Gérald a d'ailleurs assisté à un concert d'ouverture la samedi dernier, il pourra en parler aussi. Vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison de le faire sur radiocanu.org, si c'est sur internet, ou bien à Lyon sur le 102.2 de la bande FM. Nous commençons Neige sur les orangers et nous continuons avec Mariana au micro, et ce ne sera plus moi.
Bonjour à tous, chers auditeurs. auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Canu avec beaucoup de retard aujourd'hui, 14h11. Mais on est bien sur Radio Canu puisque, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de musique ancienne. Mais en plus de musique ancienne, matinée de musique contemporaine. C'est un peu ce qui fait l'originalité, la spécificité de l'ensemble Alchimia, dont nous recevons aujourd'hui donc la représentante Marina Delgado Espinosa.
Non, Mariana.
Mariana, pardon.
Tous les deux.
On va y arriver en fin d'émission.
Je crois, en espagnol d'Amérique du Sud, c'est pas Delgadillo, c'est Delgadillo, je crois. Et c'est un...
Delgadillo.
Lio, c'est ça? Il me semble que c'est plus en Argentine où les deux L, c'est une sorte de cheul, le poulet, je crois, c'est pocho.
On vient d'écouter, peut-être, avant de vous présenter, avant de faire dresser un peu votre portrait, votre parcours, on va peut-être parler de ce qu'on vient d'entendre. C'était quoi?
Oui, alors on vient d'entendre justement déjà une potion, si j'ose dire, entre musique ancienne et contemporaine, puisque c'était un mélange que nous avons fait dans un de nos programmes. De musique du XIVe siècle, donc du Codex de las Huelgas, musique en Espagne, avec une composition de Maurice Ohana, qui est un compositeur franco-espagnol du XXe siècle.
Alors sur votre site, on trouve, ou sur l'un des sites qui vous a hébergé, Cordes et Arbres, il a une petite recette des sorcières, recette secrète des sorcières et enchanteresses, à absorber en une fois, sans pause ou entr'acte, éléments de la préparation, pièces restituées des manuscrits du XIVe siècle, donc pièces qui en sont inspirées, et compositions récentes entremêlées, avertissement, transformation mutuelle des morceaux anciens et contemporains, brouillage des repères par les va-et-vient des sons en contrepoint, entre musique mesurée et non mesurée, textes sacrés et profanes.
Si j'ose dire, c'est un peu le gaga de l'ensemble Alchimia et mon projet personnel en même temps. C'est de montrer d'une certaine façon la correspondance qui est entre musique ancienne et contemporaine, créer les liens et de montrer au public que l'écoute de la musique contemporaine n'est en aucun moment plus compliquée ou plus complexe si elle est amenée par des bons fils.
Conducteur.
Alors c'est très bien, vous dites le gaga, votre gaga, vous ainsi que celui de l'ensemble Alchimia. Gérard l'a très bien exposé, normalement, en début d'émission, le portrait, enfin l'invité brosse un peu son portrait, se présente un peu. C'est-à-dire en gros c'est cette grande question qui serait peut-être un peu trop grande, hein. Qui êtes-vous Mariana? Comment êtes-vous venue, peut-être la précision, comment êtes-vous venue à cet ensemble Alchimia? Il m'a semblé lire quelque part sur internet qu'en 2015 vous avez reçu un prix à Turin. Pour c'est un direction de chœur, c'est ça, je crois.
Oui, en fait, c'était un concours international de jeunes chefs de chœur.
Coryphée, j'ai lu le terme. On peut dire coryphée aussi,
ou c'est coryphée. Je sais pas.
comme chef de chœur, je vous en prie. Donc vous.
Donc c'est le concours qui est organisé par Europa Cantate, qui est une sorte de énorme société du monde choral en Europe. Et ce concours, cette année, c'était en Italie et ils avaient un peu comme thème la musique ancienne au premier tour, au deuxième tour, et musique contemporaine au troisième tour. Donc c'était un peu fait pour moi, si j'ai envie de dire, si j'ose dire. Et je me suis présentée juste après avoir fait la création du premier festival Alchimia, qui a été en fait l'aboutissement d'un cursus que j'ai fait au Conservatoire National Supérieur de Lyon dans le cadre de l'artiste diploma, donc qui est un sort de troisième cycle. Et j'avais fini tous les concerts des créations de l'ensemble. Et juste un mois après, je suis partie au concours et j'avais donc les armes, heureusement, et pour défendre un peu mes connaissances. Effectivement, j'ai eu le premier prix du concours en général et une mention spéciale pour l'interprétation de la musique ancienne.
Voilà. Et alors, comment êtes-vous venu là? Moi, je pourrais même lancer aussi il faut un éclaircissement. Vous arrivez de Bolivie, on ne peut pas le masquer, je crois, à la fois dans votre nom, puis aussi peut-être toute, mais alors vraiment très légère, une petite pointe d'accent. Alors, qu'est-ce qui vous amène de Bolivie à Lyon? Et puis surtout, c'est que la Bolivie, manifestement, vous y retournez pour des partitions, pour d'autres choses, pour des projets.
Oui.
J'ai même entendu le nom, j'ai vu le mot pré-baroque utilisé quelque part. C'est fascinant,
oui.
Mariana.
Oui. Tout à fait. En fait, je suis bolivienne. J'ai commencé mes études de musique en Bolivie Et ma curiosité envers le monde, bah déjà la musique occidentale, le monde européen et surtout l'identité française de la culture au XXe siècle. En fait, tout, la peinture, la danse, donc la musique, tout m'a vraiment attirée vers ce pays. Et j'ai décidé donc de venir continuer mes études de musique en France, tout simplement.
Pourquoi pas l'Italie plutôt? Non, c'est... Ou l'Allemagne aussi, non?
Oui, alors... C'est vrai, je sais pas, inconsciemment, j'ai choisi la France pour plusieurs raisons. Finalement, même si c'est un pays très éloigné et avec une langue différente aussi que la Bolivie, parce que j'aurais pu aussi aller en Espagne, pour une question plus de facilité linguistique, j'ai quand même choisi la France pour... C'est peut-être un fantôme, en fait. C'est peut-être quelque chose, un fantôme qu'on a encore à moitié romantique ou romantesque.
Fantôme et fantasme, d'ailleurs, fantasme, c'est la même origine. Ouais. Fantasme.
dans notre culture sud-américaine. L'Italie, ça ne m'a pas tant que ça attiré pour des questions... Je sais pas, c'est peut-être social aussi. Il y a certaines valeurs qui suit la mentalité française qui m'attire.
Il y a quand même une francophilie
dans
tout le continent latino-américain.
Oui, tout à fait. Et aussi, en fait, la langue. Je suis tombée amoureuse de cette langue très, très tôt. Même en primaire, je pense, pour tout vous dire.
Vous aviez appris le français à l'école en Bolivie ?
J'ai commencé, ouais. Et c'est ma mère qui m'a introduit, qui m'a plutôt influencée pour que je choisisse français à la place d'anglais à l'époque. Et donc elle a un peu plus réussi qu'elle ne l'attendait, parce que quand je lui ai dit mais finalement je pars en France, bon, ça elle l'attendait pas trop, mais elle en était très contente aussi. Et donc toutes ces raisons là puis aussi bien sûr le savoir vivre français,
ou l'art de vivre, ou
l'art
le savoir
de vivre. Plutôt,
vous êtes un pur produit de la francophonie qu'on aime, alors, finalement.
J'espère. Enfin, j'aimerais bien. En tout cas, bon, voilà. Y a plusieurs raisons m'ont fait tomber amoureuse de ce pays. Et donc, je suis venue en France. J'ai eu l'énorme chance d'arriver à Nantes, qui est une ville très accueillante pour les étudiants. De rencontrer une musicienne exceptionnelle qui est Valérie Fayet, qui est une chef de chœur, qui venait d'ouvrir la classe de direction de chœur à Nantes. J'ai commencé avec elle et elle m'a fait découvrir ce beau métier qui est la direction de chœur, parce qu'on travaille directement avec les gens. J'étais pianiste à la base et la musique c'est bien, mais pour moi c'est mieux si c'est avec d'autres.
Les gens et leurs organes, comme on dit dans la langue française, un bel organe.
C'est toujours très bien, Gérald, de laisser parler les invités. Moi, je comptais poser comme question tout à l'heure, quel instrument, quelle était votre pratique initiale? Le piano, voilà, vous avez répondu, vous l'avez indiqué. De vous-même, vous êtes arrivé à cette... Il fallait que nous vous demandions cela, certes, comment êtes-vous arrivé en France, mais comment êtes-vous venu à la musique? Donc, un peu de piano, c'est... Votre mère encore, une influence de sa part, votre père ou la famille
Oui, alors c'est un concours de circonstances. À un moment donné, il y a une maîtresse qui a dit à ma sœur « Ah, mais en fait, t'as une jolie voix, va voir le professeur de musique du quartier. » Donc ma mère qui dit « Ah, ben si elle a une jolie voix, peut-être l'autre aussi a une jolie oreille ou je sais pas quoi. » Ma mère étant complètement néophyte, voilà. Et en fait, elle nous a amené voir le professeur du quartier, qui nous a adressé très vite dans le directeur de l'école de musique, qui nous a adressé très vite dans le directeur chez quelqu'un d'autre.
Parce qu'il y avait un talent, il y avait quelque chose.
Parce qu'ils ont dit effectivement « Ah, c'est pas que approximatif en plus, cette petite jolie oreille, etc. Voilà. »
Et vous venez d'un milieu, j'imagine, plutôt urbain, de La Paz. On connaît très peu de choses de la Bolivie en France. Alors, il y a une grande ville autre que La Paz.
Oui, tout à fait. Il y a Cochabamba, qui est un peu la deuxième ville, vraiment comme Lyon, pour le coup, parce que ça se bat avec Santa Cruz pour être la deuxième ville. Donc, un peu Lyon-Marseille. Enfin, voilà.
C'est ça.
Et c'est une petite ville, grande ville, je sais pas comment dire ça, parce que comparé aux autres grandes villes de l'Amérique du Sud, c'est quand même une petite ville de 2 millions d'habitants.
Quand même.
mais qui avait à l'époque déjà un petit mouvement culturel qui s'est éveillé, et voilà, donc moi je suis un peu le produit de cet éveillement.
Et alors, je vous disais tout à l'heure, je vous demandais, vous y retournez en Bolivie un
oui.
peu, enfin pour justement,
oui.
pour du travail?
Tout à fait, bah, pas autant que je le voudrais encore. Je suis en train de... Enfin, nous sommes dans un processus de construction pour justement trouver une passerelle qui réunit notre travail ici avec le travail en Bolivie, un travail que nous souhaitons implanter en Bolivie, surtout dans la ville de Sucre, qui est une des villes le plus importante à l'époque de la colonie, culturellement mmh. et aussi économiquement, parce que c'était juste à côté de Potosi, donc des mines de Potosi, où il y avait une cathédrale, donc au XVIIe et XVIIIe siècle, qui était très nourrie par les influences européennes en musique et en danse. Et on trouve un énorme archive de 2000 partitions des maîtres de chapelle qui sont succédés avec des équipes complètes, des chantres, instrumentistes, facteurs d'instruments, etc.
C'est passé par les jésuites aussi?
Alors oui, pas à Sucre. Les jésuites, ils étaient implantés dans l'Orient du pays, donc du côté des missions jésuites. Mmh. Que là, c'était vraiment, je ne sais plus... congrégation, merci, c'était, mais voilà, c'était vraiment dans le cadre de la cathédrale, donc c'est la musique sacrée.
Il y a déjà
sacrée.
Un lieu aussi pour très très beau, une magnifique cathédrale baroque, latino-baroque,
tout à fait,
pour y donner aussi les concerts.
Oui, tout à fait, bah, toutes les cérémonies, il y avait un maître de chapelle, donc toutes les cérémonies avaient des œuvres écrites pour le lieu et pour le moment.
Et il y a tout ce patrimoine énorme à valoriser, à réinterpréter, à revivifier,
ouais.
en fait.
C'est un travail que des musicologues argentins ont commencé déjà il y a une trentaine d'années, avec le boom de la musique baroque de l'Amérique du Sud, qui a suivi le boom ici. Mais qui n'a pas été, à mon goût, assez mise en valeur pour reconnaître le lieu. C'est-à-dire, c'était présenté comme de la musique baroque sud-américaine, tout court.
On a un peu masqué les origines.
Voilà.
Étonnant.
et Alchimia,
d'où vient ce nom?
Parce que alors, vous, entre la Bolivie donc, et la France, vous arrivez à Nantes, et puis si on souhaite, c'est quand même bien, il y a quelques jalons, hein. On a Turin en 2015, Nantes, bon, on ne mettra pas de date pour Nantes, bref, et entre Nantes et Turin, comment est-ce que vous arrivez à Lyon? Et puis alors, Alchimia est local,
oui, tout
l'ensemble
à fait.
Net ici?
Oui.
2013, 2014, je crois?
Oui, 2014. En fait, après, après avoir fini le conservatoire à Nantes, j'ai décidé donc de devenir professionnelle dans la direction de chœur, et à Lyon, il existe une classe de direction de chœur qui amène leur licence master, comme à Paris peut exister une classe de direction d'orchestre. Mmh. Voilà.
Il y a de grands noms à Lyon pour la musique de chœur, Nicole Corti,
voilà,
Bernard Tétu aussi.
Ouais, qui est le fondateur de la classe. Nicole Corti qui a repris la suite de Bernard Tétu dans ce conservatoire, et qui est maintenant aussi partie et qui a repris Spirito, qui est qui est vraiment une belle implantation de la musique chorale.
Ensemble féminin, je crois, c'est ça seulement, Spirito, ou non?
Pas que, maintenant c'est...
Mixte également.
Vraiment, oui. Et donc, Alchimia, c'est un peu le résultat de ma scolarité au CNSM. C'est un peu le résultat, pas seulement musical, parce que j'ai vécu donc des très beaux moments de découvertes musicales au conservatoire, mais aussi humaines, parce qu'à la base, c'est une bande d'amis, de très bons amis.
C'est même un ensemble formé de chanteurs professionnels et en voie de professionnalisation, ainsi que d'instrumentistes spécialisés en musique ancienne et contemporaine, actuels et anciens étudiants des conservatoires supérieurs et régionales, et d'origines différentes, France, Bolivie, Espagne, Colombie.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est des amis, j'ai oublié de dire ça, c'est pas que des chanteurs, il y a aussi des instrumentistes de musique ancienne, donc ils ont tous fait le cursus de musique ancienne au conservatoire supérieur, sauf les percussionnistes, ils font tout. C'est des hommes et femmes à tout faire, voilà.
Viol de gambe, c'est ça, non? Quels sont les instruments?
Par exemple, viol de gambe, flûte à bec. Donc on a une flûtiste espagnole. Ensuite, luth. Et donc la personne qui joue luth, c'est luth, guitare, théorbe.
Ah, le théorbe, oui.
Aux percussions, Sébastien Herbier, Mathilde Dambricourt.
Non, ça dépend des programmes, ça change. Ouais.
Pour le concert d'ouverture, c'était un concert accordéon, je crois, c'est ça, et viol de gambe. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est écouter éventuellement un peu de musique, puisque nous parlons de musique. Ouais. Et puis, moi, j'insiste, il faudra quand même si on a eu quelques éléments pour comprendre ce nom Alchimia, une alchimie, c'est ça, un ensemble de. Qu'est-ce qu'on peut écouter? Moi, je proposais peut-être ce titre qui est très bien, qui me semble très festif, le Ad Mortem Festinamus. mais il y a aussi le Memento Mori qui est, je trouve l'introduction très bonne, mais alors il est un peu long. Je ne sais pas si nous pourrons écouter les 7 minutes. Et puis, c'est ce que vous m'aviez indiqué quand vous m'avez fait suivre ces éléments, Mariana. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous m'avez indiqué qu'il était possible que la qualité ne soit pas toujours très. Enfin, pas tant la qualité, mais comment dire, l'enregistrement. Mm. Et là, c'est vrai que ce Memento Mori, je me demandais, ça commence très doucement. C'est dans une. Je suppose il y a une belle réverbération, non? C'est un lieu un peu ample. On peut essayer peut-être. Et puis si jamais ça ne marche pas, eh bien de toute façon, quoi qu'il en soit, il faudra couper les 7 minutes.
Donc, c'est peut-être un Memento Mori pour 7 voix de femmes et percussions.
Oui.
Par Daniel Alvarado.
Qui a été composé par Daniel Alvarado pour Alchimia, oui.
À partir d'éléments anciens et contemporains.
Qui a été composé à partir de Ad Mortem Festinamus, que vous avez cité aussi juste avant.
Le morceau suivant. Alors nous écoutons et puis nous voyons ce qu'il en est de la qualité et nous poursuivons. 14h27, presque 14h30, vous êtes très bien sur Spectaculaire et nous écoutons de la musique baroque, voire pré-baroque. Je trouve ce terme génial, je ne le connaissais pas auparavant, c'est très bien.
D'entendre
Memento Mori.
d'après un manuscrit.
C'est inspiré, c'est une relecture de la danse macabre Ad Mortem Festinamus du livre Vermeil de Montserrat que le compositeur Daniel Alvarado a remanié. Mmh. Et remis dans son langage un tout petit peu avec des pointes sarcastiques, ironiques de la mort, la religion, le moral, etc.
Marianne Delgadillo Espinosa est notre invitée avec, pour l'ensemble Alchimia. Elle en est la chef de chœur ainsi que la directrice de l'ensemble. Et il y a donc Gérald
Alors, c'est dans le cadre d'un festival, hein, les rendez-vous de musique ancienne, concert d'automne. J'ai eu la chance d'assister samedi dernier en la chapelle Saint-Louis-Saint-Bruno, que je ne connaissais pas, un lieu magnifique, un lieu néo-gothico-byzantin très coloré avec un très beau chœur peint, style troubadour, il me semble. Avec un joli agneau, on voit les phases de mouvement décomposées, c'est peut-être contemporain de l'invention du cinéma. À vérifier, j'ai pas l'auteur, je ferai des recherches là-dessus. En tout cas, c'est un concert qui est donc inauguré ce festival des concerts d'automne.
Un peu décroché.
C'était Les Inattendus, un duo, donc un duo très très atypique avec un accordéoniste et une violiste de gambe, on dit comme ça, je pense. Mmh. Donc Marianne Muller et Vincent Lermet qui proposaient un programme shakespearien, élisabétain avec Gibbons, Dowlands pour les plus connus, mais Hume aussi. Et puis qui avait justement dans l'esprit aussi d'Alchimia de mélanger des compositeurs contemporains comme Trudeau et aussi Hersant, magnifique, ça finit avec Hersant. C'était
ouais.
À la fois léger, profond, grave. Très très bien interprété, et c'est vrai, deux instruments qui se marient à merveille, et pour lesquels aucun répertoire n'avait été vraiment créé. Et là, justement, Hersant et Trudeau avaient créé une partition spéciale. Donc, pas mal de monde, et dans un très très beau cadre. Et
ça, donc, concert d'ouverture qui était le 14 octobre, c'était quand même un peu en décroché.
Voilà.
Le grand moment fort sera.
Ce sera le samedi 25 novembre, c'est pour ça que vous êtes là, Mariana.
Il y a la veille aussi, l'ouverture.
Oui, et qui s'appellera Célébrando. Le 24 novembre, alors c'est écrit en grec, donc Hieros, hein, du grec
ouais.
Ancien, sacré, consacré à une divinité, appartenant à Dieu, que l'on peut offrir en sacrifice.
C'est l'ensemble.
C'est l'ensemble Céladon, avec lequel vous êtes en partenariat, direction Paulin Bingen, avec le umlaut sur le U, comme, je sais pas quel mot, mais bon.
Et le lendemain,
samedi 25 novembre à 20h, c'est tout à 20h, Celebrando, l'ensemble donc Alchimia, direction Mariana Delgadillo Espinosa. Je vais lire le petit programme.
Petit texte, oui.
Donc Celebrando est un concert spectacle important, hein, parce que c'est écrit, c'est scénarisé, c'est mis en espace, etc.
Toujours,
qui plonge l'auditeur dans l'univers de la musique polychorale de la période pré-baroque du XVIIe siècle et de la création contemporaine. Qui dit polychoralité dit aussi spatialisation et donc mise en espace dans un concept plus moderne. La transformation musicale de la musique ancienne en musique contemporaine illustre le cheminement de l'âme lors d'une célébration du renouveau. Les motets de Gesualdo Schultz, encore un umlaut, Schultz, Cabanies et Patigno s'intercaleront aux nouvelles compositions de Bertrand Play pour viol de gambe et 8 voix a cappella. Une heure avant le concert, un avant-propos par le compositeur présentant ses nouvelles pièces. Et un après-concert, le lancement de la partition éditée par Microsillon, Victimae Pascali Laudes, de Bertrand Play, autour d'un verre d'amitié pour continuer la célébration. Donc il y aura Camille Joutard, Marie Romandet, Lucie Minaudier au soprano, Alina Delgadillo, Laure Ilef aux altos, Vincent Laloy ténor, Antoine Bretonnière bariton, Guillaume Frey basse, Nolwenn Leguerne viol de gambe et Mariana Delgadillo Espinosa à la direction.
Elle va pouvoir donc davantage nous parler peut-être de cette distribution du programme en précisant, attention Gérald, il me semble que tu laisses entendre que ce sont des instruments. Non. Soprano, alto, ténor, bariton
et
basse.
Ah oui, non, ce sont des voix. Hein.
Ce sont que des voix.
Ensemble vocal. Il y a juste la viole de gambe.
Il n'y aura que Nolwenn.
Ça va être magnifique.
Nolwenn Leguerne.
Et le lendemain, le 26, il y aura aussi Telemann, Leipzig 1730, l'ensemble Archivolt.
Nous renvoyons les auditeurs
au programme, mise en ligne sur le blog.
Ils peuvent appeler, ils peuvent également se rendre sur le blog. Je dis un numéro de téléphone, il y a un numéro info et renseignements au 09 51 20 76 66. 09 51 20 76 66. 76 66, oui, à la fin. Rendez-vous de musique ancienne, tout accroché, gmail.com. Rendez-vous musique ancienne, il y a également un site, wix.com. Enfin bref.
Programmation d'excellente qualité, lieu tout à fait magnifique et prix tout à fait abordable. Et comme on ne vous offrira pas de place encore aujourd'hui, une fois de plus, on ne pratique pas ça.
Non, on n'est pas comme
ça. Mais allez-y, il y a des tarifs réduits très intéressants.
En revanche, Mariana, vous dirigerez donc ce programme. Pourriez-vous bien nous en parler davantage? Et puis alors ce mot pré-baroque, et puis en revenant, nous parlons de Alchimia, je vous en prie. Vous dites ce que vous voulez.
Merci. Eh bien, ce programme, il sera une création mondiale dans le cadre des rendez-vous de musique ancienne, donc qui est un festival que l'ensemble co-organise avec Céladon. Donc l'ensemble Celado nous a accueillis depuis l'année dernière en résidence au centre scolaire Saint-Bruno. Et donc grâce à ça, nous pouvons créer des sortes de programmes comme celui-ci qui a été à la fois soutenu par la SACEM pour la commande au compositeur Bertrand Play, qui est un jeune compositeur avec une très très belle promesse. Très montante. Et donc, il a écrit pour ses voix solistes, 8 voix solistes et viol de gambe, sur des textes du grégorien des Antiennes Hauts, des Lavant, et la viol de gambe qui jouera des interludes entre chaque antienne.
Donc les morceaux seront a cappella, c'est ça? Il n'y aura pas d'accompagnement musical pendant les morceaux eux-mêmes de Bertrand Play ou les autres de Gesualdo, Schultz et,
alors, pour ce qui est de la musique ancienne, il y aura un continuo, ce qu'on appelle un continuo, donc un petit orgue positif et la viol de gambe. Et pour ce qui est de la musique contemporaine, ça sera tout a cappella, oui.
Oui, je crois qu'il y a des vidéos où on vous voit avec un diapason, c'est ça, non?
Oui,
il me semble,
tout à fait.
Ça lance la chose, il y a une pureté qui ressort des vidéos, mais même d'ailleurs en termes de prise de vue aussi. Il y a vraiment une élégance, une classe. Ah, mais ça m'avait totalement... Je souhaitais vous recevoir, auditeur, voilà, je vous dis ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Je souhaitais vous recevoir pour ce moment Tout le monde dehors, moment baroque, qui était, je crois, sur une semaine... C'était plusieurs dates, même sur peut-être plusieurs semaines, de la fin juin jusqu'à la mi-juillet, et puis ça n'a pas pu se faire. Nous avons plutôt reçu l'ensemble Boréade, mais c'est très bien que nous puissions nous rattraper. Vous avez encore la parole, Mariana, pour davantage parler de cet ensemble, de ce programme Célébrando. Peut-être pourriez-vous évoquer aussi les autres programmes de Alchimia. Ou...
Les compositeurs, déjà?
Oui.
Gesualdo, qu'on est plus de...
Donc, en fait, ce sont des compositeurs du XVIIe siècle. C'est un peu... On aime bien appeler ça la période pré-baroque, parce que l'écriture reste très... rappelle beaucoup, quand même, le contrepoint Renaissance. Donc c'est un peu les vestiges de la Renaissance, avec beaucoup de caractéristiques baroques qui arrivent. Donc par exemple une voix qui se détache pour faire quelque chose de plus expressif. L'affect est traité d'une autre façon, mais l'harmonie est pas complètement cadrée comme ça pourrait l'être dans la période postérieure baroque.
Le terme contrepoint. Toute petite note de bas de page comme ça, une petite définition.
Et puis motet peut-être. Ah, comment on pourrait définir le contrepoint? Ils l'ont défini samedi soir de manière très simple, mais allez-y.
Eh ben, contrepoint à la base déjà c'est point contre point, c'est-à-dire note contre note. Donc c'est comme faire du puzzle avec des notes qui partent d'une position pour aller vers une autre. Donc tout peut être un contrepoint à partir où il y a deux voix. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans le cas des pièces du 25 novembre. Et donc, c'est un peu comme une individualité qui, en même temps, fonctionne très bien avec les autres.
D'accord.
Voilà. Et pour ce qui est de motets, eh ben, c'est tout simplement les textes sacrés. Donc, ça va être plutôt des psaumes ou ça va pas être des pièces de l'ordinaire. Donc, ça ne sera pas un kyrie, un credo, etc. Et mise en musique, qui deviendra la musique sacrée, qui peut être liturgique ou pas.
Les plus célèbres sont ceux de Bach, les
six motets de Bach. Il en a fait 6, oui. Voilà.
On n'a même pas été, Gérald, à ce point étonné, mais quand même, une écriture pour 8 voix.
Oui.
8 lignes différentes, mais comment ça peut, moi je demanderais volontiers à Bertrand Play s'il était présent, comment ça peut se composer, et puis alors là c'est très bien qu'on vous tienne, c'est très bien que vous soyez présente, Mariana Delgadillo Espinosa, comment est-ce que ça se dirige, et alors il faudrait que nous ayons une chanteuse ou un chanteur ici, comment est-ce que ça se chante, enfin du moins 8 voix, il faut un effort de concentration, enfin du moins, et puis pour la direction c'est... J'en ai le sifflet coupé, j'en suis bouche bée, je ne peux rien dire.
C'est effectivement, le contrepoint à 8 voix est assez délicat, mais il y a des compositeurs qui ont vraiment poussé la difficulté jusqu'à aller à 40 voix, comme il y a une pièce très très connue d'un compositeur, Thomas Tallis, anglais, qui a écrit pour 40 voix. Alors, bien entendu, à 40 voix, les voix se ressemblent de plus en plus.
Ça se fond,
et puis surtout, on peut pas vraiment s'éloigner d'une même harmonie. À 8 voix, quand même, ça reste très malléable, c'est-à-dire on peut pousser un peu encore les voix dans des extrêmes, dans des tessitures différentes. Pour ce qui est de la direction, je pense que toutes les musiques ont leurs difficultés. Et donc là, c'en est une, c'est-à-dire le contrepoint riche. Mais aussi, même dans une petite pièce à trois voix, on peut trouver des difficultés qui sont plus dans l'ordre de l'interprétation artistique que dans l'interprétation technique, si j'ose dire. Pour les chanteurs, c'est vrai que c'est un défi, parce qu'effectivement, déjà a cappella, donc il récupère les notes au diapason s'il y a un problème. Et c'est vrai que nous aussi, dans notre travail, on pousse aux chanteurs qu'ils réagissent de la même façon qu'ils réagiraient dans la musique ancienne. C'est-à-dire, on ne va pas aller chercher un instrument pour ou un piano ou d'autres instruments pour se tenir. Non, il faut vraiment que ça sonne entre eux d'abord.
Et comment on fait pour diriger? Enfin, parce que là, je suis en train de me dire que finalement, la part la plus complexe, je ne pense pas que ce soit le compositeur, puisque bon, bah, lui, il compose, éventuellement, il a une partition devant lui, enfin voilà, il peut éventuellement, je vais être bête comme tout, il peut mettre n'importe quel, enfin voilà, les chanteurs, éventuellement, ils se mettent dans une bulle quand ils chantent, mais après, c'est vrai, vous l'avez indiqué à l'instant, comment récupérer une note si on se perd, mais pour la personne qui dirige, comment est-ce qu'on fait avec, il faut avoir une autre chose qu'une petite oreille, c'était l'expression de votre mère, c'est ça, il faut avoir une oreille phénoménale. Et puis moi, en fait, si la question que je pourrais vous poser à l'instant, c'est le travail qui est fait, enfin du moins la représentation, c'est un moment où il y a une tension qui doit être encore plus importante, c'est entendu, mais la préparation la plus énorme se fait avant, je suppose. Non, c'est le jour du concert, éventuellement, ben c'est seulement voilà, on va faire ce qu'on a mis au point pendant un mois ou deux mois ou je ne sais combien de temps. Voilà, ou une année, t'as totalement raison. Éventuellement, voilà, les choses sont prêtes. Quoique, enfin justement, quel serait votre travail avant et pendant, enfin, comment est-ce que vous composez cela vous-même, Mariana?
En fait, ça commence par une longue période de travail individuel de la part des chanteurs et de ma part. Pour ma part, Déjà, j'essaye d'aller d'un point de vue global au détail. Donc, d'un point de vue global, on se rend compte tout de suite ce que le bon compositeur a pu déjà caler, qui fait des repères énormes au niveau de la forme, au niveau de la construction. Parce qu'une pièce, c'est un peu comme un film. On raconte une histoire. Voilà.
C'est construit.
Oui, c'est très, très construit. Il y a des personnages, il y a une dramaturgie, il y a des moments de climax, il y a des moments de détente. Et donc, ça se voit très vite, dans une belle composition, dans la forme générale.
Bertrand Tremblay est très bon, oui.
C'est vraiment un compositeur qui est à l'écoute à la fois des interprètes et en même temps à l'écoute de ses besoins artistiques. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très cohérent et pertinent, parce que aussi on peut trouver des très bons compositeurs vis-à-vis d'eux-mêmes, mais qui délivrent quelque chose qui est quand même très très difficile de prendre en main.
Hermétique ou ardu pour les autres.
Voilà.
Donc là, il y a un plaisir de.
Oui, il y a un véritable échange. Il y a un véritable échange en plus au moment de la composition. C'est un peu pour ça aussi que Alchimia, on travaille beaucoup avec des compositeurs, parce que le moment de la création commence à partir du moment où on discute et tout d'un coup on a une même idée sur quelque chose. Et ça grandit avec le temps. Bah, le compositeur, il est capable de mettre des notes sur un papier. Et en fin de compte, ces notes deviennent...
C'est une collaboration vraiment.
C'est vraiment une collaboration.
Et alors, les répétitions sont-elles nombreuses? Est-ce qu'elles sont à ensemble complet ou bien sur...
Oui, elles sont ensemble complet, mais comme c'est tous des chanteurs professionnels et on ne peut pas les faire venir beaucoup de temps en avance, on commence 3 jours avant.
Ah ouais, c'est tout.
Et donc il y a beaucoup de travail personnel, effectivement. Oui.
Bah, comme un instrumentiste qui répète toutes ses gammes et sa partition toute la journée avant de jouer à l'opéra. Quoi.
Tout à fait. C'est des choses très difficiles à déchiffrer.
Alors pour vous, la direction, c'est...
Et alors pour moi, la direction, comme je disais, on voit d'un point de vue global, au détail. Et en fait, si j'ose dire, il y a des automatismes qui viennent avec le temps, avec l'expérience, au niveau déjà technique, au niveau de la battue. Il y a des automatismes, c'est-à-dire les compositeurs, même si c'est très nouveau, enfin c'est un peu difficile même de dire que c'est une musique est complètement nouvelle, libre d'influence. En fait, on trouve toujours des repères. On trouve toujours des choses qu'on a déjà fait sonner d'une façon ou d'une autre, ou qu'on a entendu sonner d'une façon ou d'une autre. Et aussi, ce qui est beau de travailler avec un compositeur, avec les mêmes, en tout cas, enfin une collaboration pas seulement ponctuelle, mais vraiment de suivre quelqu'un, c'est que on retrouve le langage de la personne. Et on le découvre, et on sait qu'à partir du moment où on voit plein de petites croix dans les voix, et ben ça va sonner. Enfin, voilà, et donc c'est un peu des images sonores qui restent ancrées aussi dans nous, et c'est ce qu'on souhaite transmettre aussi.
Oui, il y a peut-être des curiosités en termes de partition, de notation, partition. Il y a des curiosités contemporaines.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, très individuelle. La notation est très individuelle. Souvent, maintenant, les compositeurs, dans les partitions contemporaines, d'ailleurs, c'est ce que j'aurais pu vous montrer dans la partition qu'on va faire éditer par Microsillon, c'est qu'on a un lexique.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui, un lexique avec un nouveau système de signes, quasiment autonome et unique. Qui correspondent qu'à cette partition-là.
Alors, il y a des choses qui commencent déjà à se standardiser. Par exemple, musique contemporaine, par exemple, des petites croix, les chuchotements. Ou alors, quand on voit une note qui n'a pas de rond, mais qui a plutôt une flèche vers le haut, ça veut dire qu'on monte jusqu'au plus haut possible. Voilà, donc c'est des petites.
Bientôt, on aura des partitions graphiques comme Stripsody de Cathy Berberian.
Ouais,
avec les comics et Tarzan. Oh, oh, oh. On l'a passé d'ailleurs sur nos ondes.
C'est vrai?
Ouais, oui.
Moi, je me demandais, on parle beaucoup de.
Et si on écoutait de la musique?
Personne. On va parler de musique, mais voilà, je lance la question, auditeur. Restez à l'écoute. Nous allons fêter, nous allons nous réjouir à la perspective de cette mort qui vient, ad mortem festinamus. Mais voilà, je lance cette question. Les lieux. Est-ce que vous faites des répétitions in situ? Est-ce que Bertrand Plé compose également in situ? Est-ce que d'ailleurs la chapelle Saint-Louis-Saint-Bruno,
on n'a pas dit l'adresse, 16 rue des Chartreux, hein, rue des Chartreux, c'est le lycée privé, il me semble.
Croix-Rousse, les pentes, c'est ça? C'est
oui, sur, côté après Flessel.
On n'est pas encore au plateau, voilà.
Là-haut.
Donc est-ce que voilà, les lieux ont une importance? Est-ce que vous avez privilégié Gesualdo et Schütz et non pas Bach? Parce que certes c'était pas la même période de je ne sais quoi, mais aussi dans ce lieu ça aurait mal sonné, ou disons ça pouvait être plus compliqué. Réjouissons-nous, lançons ce festinamus et puis nous continuons ensuite. Il nous reste encore à peu près.
Et on dit in situ, on dit pas in situ, hein, attention.
J'ai dit in situ moi.
Non, in situ, non, justement. Bon, soyons puristes.
Ad mortem festinamus, et puis nous poursuivons avec toujours Mariana Delgadillo Espinosa.
Dans les moteurs de destin,
Vous êtes bien sur Radio Canu, 14h52. Mariana Delgadillo Espinoza vient de nous faire écouter Ad Mortem Festinamus de l'ensemble Alchimia, qui veut dire alchimie, enfin qui se rapproche du mot alchimie. Donc une danse macabre revisitée, extraite du livre vermeil de Montserrat du XIVe siècle, spécificité de cet ensemble qui rejoue, qui revisite, qui respatialise des compositions du XIVe siècle, matinée de compositions contemporaines, un esprit contemporain qui mélange esprit de pré-baroque ou de musique ancienne avec l'esprit contemporain. Voilà.
Et il faut que nous parlions de lieu aussi, hein, je crois. Donc, je vous en prie, Mariana, vous rebondissez peut-être sur ce que.
Le balai, peut-être qu'on pourrait développer ce programme du 25 novembre avec donc Gesualdo, Schütz, Cabaniles et Patigno. Nous avons des nationalités différentes, des musiciens tout à fait différents qui ont marqué leur temps, dont certains sont plus ou moins connus.
Oui, tout à fait. En fait, le fil conducteur du programme, en tout cas pour ce qui est de la musique ancienne, c'est que ce sont des compositeurs qui ont travaillé la spatialisation d'une façon ou d'une autre. Par exemple, nous aurons les deux pièces, deux motets de Carlos Patigno, Maria Mater Dei et Ave Maristella, pour double chœur, c'est-à-dire un chœur composé de soprano alto ténor et un autre chœur soprano alto ténor basse, qui se répondent.
Qui font la stéréo.
Voilà, exactement. Et d'un autre côté, nous avons un motet de Schütz qui travaille en spécialisation, mais dans un seul chœur. C'est-à-dire, c'est vraiment l'écriture qui utilise le contrepoint, justement, d'une façon un peu en écho, pareil. Voilà, Schütz, comme on parlait tout à l'heure.
Voilà, Antoine Sagittarius, alias Sagittarius, élève de Monteverdi, parce qu'on est. Tout ça procède un peu de l'esprit de Monteverdi, qui est quand même un des inventeurs de cette polyphonie vocale ou pas?
Je ne sais pas si inventeur, mais en tout cas qui a énormément développé la polychoralité aussi quand il était à Venise, quand il a travaillé à Venise, mais il a un peu suivi déjà le courant qui avait été lancé par les Gabrielli. Et donc Schütz a pu bien connaître ça puisqu'il y a fait un séjour avant de rentrer dans les Erzgebirge en Allemagne.
Et Cabaniles est donc catalan, et deux Espagnols, et aussi Patigno, deux Espagnols.
Et Cabaniles qui est plus connu par son œuvre parce qu'il a beaucoup écrit pour orgue. Et donc là, on présente un motet qui s'appelle Mortales que amais, qui est un motet très beau sur le thème de Pâques, un peu, c'est un motet de Pâques, comme on appelait à l'époque en Espagne un villancico de Pâques.
Donc un thème plutôt qui part de la mort pour la résurrection.
Tout à fait. Donc c'est un peu, comme vous l'issiez dans la présentation, de toute façon le thème le déroulé de notre concert-spectacle, parce qu'à chaque fois les concerts ils ont une dramaturgie, comme je disais aussi, c'est un peu un renouveau. Donc on part de la mort au début, et après on aura un victime Pascalé Laudes qui donc célèbre plutôt la résurrection.
C'est bien de faire ça le 25 novembre, parce que en plein été indien, mais le 25 novembre il fera peut-être plus frais
qu'aujourd'hui. En fait on passe par toute l'année, parce qu'on fait aussi la musique des, donc la création mondiale, la nouvelle pièce que Bertrand Play a écrit, est sur le texte des Antiennes Hauts, donc pour l'Avent. Donc en fait, on fait un parcours aussi de la liturgie.
D'accord. Alors tout ça peut paraître peut-être abscon, chiant, hermétique, j'ai osé le mot chiant, certains auditeurs, mais la musique sacrée, même quand on n'est pas croyant, qu'on est athée, ou agnostique, qu'on n'a pas la foi, c'est quand même d'une telle beauté que
ça remue,
on a presque envie de se convertir.
dans tous les cas, ça fait appel à une intériorité.
Qui appartient à tout le monde. Heureusement.
Exactement. Ouais.
Qu'elle n'est pas le privilège des religions. Quel drame ce serait.
Ah, ça, c'est bien de terminer de
ou
cette
des
manière.
Des pays, des nations et des ethnies et des cultures.
Il est important,
on mélange tout.
De terminer avec cette idée que sans bagage culturel que ce soit, sans quoi que ce soit, sans aucune connaissance particulière, on peut apprécier un concert de l'ensemble Alchimia.
C'est le but. C'est vraiment nos programmes, nos spectacles et même notre politique. Enfin, on peut pas dire notre politique, mais nos façons d'agir auprès des publics, c'est vraiment d'aller vers les gens. on n'attend plus, parce qu'il y a eu pendant des années un courant en France, cette fois-ci, pour le coup, de musique contemporaine très élitiste et qui éloignait un tout petit peu les gens non connaisseurs.
Quand on entend Boulez dire que le rock n'a jamais rien inventé, ça n'aide pas à apprécier de la musique contemporaine ou apprécier le personnage,
tout au moins. Donc je ne dirais pas le nom, qui disait qu'il faisait exprès la musique difficile pour pas qu'il y ait des mauvais musiciens qui viennent la jouer. Enfin, voilà. Nous, on n'est vraiment pas dans cette optique-là. Mm-hmm. Et au contraire, on cherche à s'approcher aux gens et les approcher de la musique contemporaine par la musique ancienne, parce que souvent, justement, c'est un langage qui nous est plus proche, qui est un peu plus... qui est un peu plus dans nos souvenirs sonores, mais pas que, parce que on a un programme, par exemple, comme on parlait tout à l'heure de la musique de Sucre, de la ville de Sucre, où on mélange cette fois-ci musique traditionnelle bolivienne et musique baroque. Et donc là, pour le coup, on pourrait dire que c'est plus la musique baroque qui est un peu, qui a besoin de certaines connaissances pour connaître, mais la musique traditionnelle est très facile d'accès. Et donc, on a proposé ce programme pour les concerts de cet été de Tout le monde dehors. Et ça a été très bien accueilli.
Et samedi dernier, j'ai vu dans les spectateurs des enfants de 12 ans, 10 ans, qui n'avaient pas l'air de s'ennuyer d'ailleurs. Toutes sortes de gens. Ouais. Vraiment de. Visiblement de toute classe sociale.
Bah, effectivement, on fait tout type d'actions pour attirer des publics différents. On a fait par exemple aussi une action autour du thème de la pavane, avec les enfants du centre scolaire qui ont dansé et qui ont chanté des pavanes. Et au début, ils n'étaient pas plus partants que ça, parce que ça ne leur parle pas.
C'est une danse, la pavane. Exactement. À part celle de Ravel, la pavane pour un enfant de défunte, ça serait quoi la pavane?
Eh bien, c'est une danse de la Renaissance.
Auditeurs, pour en savoir plus, et en plus vous devez en savoir plus, ne serait-ce que pour aller voir Mariana sur scène, la petite photo du dépliant, je crois qu'on vous aperçoit en bas à droite, il me semble que c'est vous. Auditeurs, vous devez voir Mariana, vous devez la voir, peut-être sera-t-elle de dos, parce que forcément elle dirigera son ensemble Alchimia le samedi 25 novembre, célébrando le programme dont elle nous aura longuement parlé pendant 7 heures. Vous pouvez retrouver cela sur le blog comme d'habitude. Le blues des canuts va commencer dans quelques instants, alors je voulais seulement indiquer quand même cette chose-là, la voix humaine, ça part quand même de la voix, et ça, la voix a priori, hein, Gérald, en plus peut-être surtout nous qui faisons de la radio, ben ça touche quand même tout le monde, la voix. Hein.
C'est l'instrument qu'on porte toujours avec soi.
On l'a tout le temps partout.
Avant l'invention du lamellophone, à la période néolithique, hein, les fameuses guimbardes et arcs musicaux.
Et on est unique.
Gérald, il faudra
on a une voix unique.
Il faudra que nous parlions de ce générique Cora, avec quelle voix l'as-tu composé. Bref, auditeur, Cora est en train de résonner. C'est la fin d'émission. Pas d'annonce aujourd'hui. Non. À l'opéra, il y a plein de choses.
Billet en pré-vente, plein tarif 14 euros, tarif réduit 6 euros, et sur place 16 euros et 8 euros. Et un pass de concert. Sur les 4, enfin il n'y en a plus que 3, donc, bref, 20 euros. Donc ce sont des tarifs tout à fait
abordables. Reprenez bien ce numéro de téléphone que j'ai donné tout à l'heure, j'ai bredouillé je crois quand j'ai indiqué 09 51 20 76 66. 09 51 20 76 66. Nous mettrons tous les renseignements. Éventuellement, pouvez-vous vous déplacer sur place? Non, les places sont plutôt achetées à la librairie Musique à l'âme qui n'est pas très loin de chez nous.
Très bonne librairie.
Sur un site aussi. Il y a une billetterie également sur place, mais il vaut mieux le faire avant. Hein. En pré-vente, c'est plus intéressant. Auditeur, merci beaucoup Mariana.
Merci
à
vous. En musique. Merci à tous.
On finit comme ça, avec Cora.
On finit avec Cora parce qu'il y a le blues des canuts qui arrive.
C'est l'heure.
Et on lâche l'antenne à l'heure.
Et exactement, pas d'annonce particulière, hein, opéra, non. Théâtre,
il y a
festival
trop de choses,
lumière.
Et puis profitez encore du soleil.
Voilà, profitez du soleil, je crois que ça tourne demain.
Et pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines peut-être.
Petite pause, on se retrouve un peu plus tard.
Mariana, merci beaucoup.
À bientôt. Restez à l'écoute du programme de Radio Canu. À très bientôt tout le monde, salut, merci.